J'ai quitté le Japon pour rechercher la justice. Et la seule chose que je demande maintenant, c'est d'être dans des conditions dans lesquelles je peux m'exprimer, je peux me défendre pour établir ma réputation et pour passer à la contre-attaque, ce qui n'était pas possible au Japon.
Bonsoir, c'est l'évasion du siècle. Une extraordinaire opération digne des services secrets, un scénario qui aurait sa place dans un James Bond. C'est cette évasion, celle de l'ancien PDG de Renault-Nissan, Carlos Ghosn, que je vais vous raconter ce soir. Évasion qui est bien un crime aux yeux de la justice japonaise qui avait prévu de tenir au moins 2 procès contre Carlos Ghosn avant que ce dernier ne se fasse la belle ou plutôt la malle dans le cas présent dans la soirée du 29 décembre 2019. Le Japon, abasourdi par cette évasion, se retrouve aujourd'hui dans l'impossibilité d'atteindre l'ex-PDG réfugié au Liban. Affaire qui est aussi un crime aux États-Unis. Ce pays vient d'accepter l'extradition vers Tokyo de 2 de ses ressortissants, parmi lesquels un homme, Michael Taylor, qui apparaît comme l'organisateur, l'architecte, le cerveau de cette opération. Il a donné beaucoup d'informations au FBI américain, des détails confidentiels et inédits sur les dessous, le montage et bien sûr le coût de cette opération. Des barbouzes, des amis dévoués, une épouse discrète, une fille qui joue les émissaires, des chambres d'hôtel et un téléphone secret. Avec nos invités, nous allons tirer le fil de cette évasion presque parfaite, car l'affaire, nous allons le voir, est effectivement très loin d'être terminée pour l'ancien grand patron de Renault-Nissan.
20h-21h, Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime.
Et ce soir donc dans l'heure du crime, Carlos Ghosn, le récit de l'évasion du siècle. Hiver 2019, tout est désormais prêt. L'ancien PDG vit ses dernières heures à Tokyo, ville dont il est le prisonnier depuis un peu plus d'un an. Ce dimanche 29 décembre 2019 au matin, Carlos Ghosn se réveille dans son appartement de Minato, un quartier résidentiel de Tokyo où se trouve notamment l'ambassade de France, avec le sentiment que cette journée est celle du quitte ou double. Resté au Japon, où il croupit depuis son arrestation le 19 novembre 2018, ou réussir une évasion préparée depuis des mois et retrouver la liberté. Seule une infime poignée de proches, la famille est informée de ce qui se trame. Son épouse Carole et ses enfants, sa fille Maya, sur la liste des visiteurs autorisés à rencontrer celui qui aurait détourné les millions de Nissan, et d'ailleurs ce jour-là chez son père. Carlos Ghosn savait que l'échéance approchait, mais il a appris seulement la veille, samedi 28 décembre, que l'opération Échappée Belle était pour aujourd'hui. En milieu de journée, ce samedi, il s'est rendu dans un hôtel proche de sa résidence. Son contrôle judiciaire lui permet ce genre de déplacement. Dans la plus grande discrétion, il a pris l'ascenseur du Grand Hyatt pour se rendre jusqu'au 9e étage, chambre 933. Il a retrouvé un certain Peter, l'Américain Peter Taylor, 27 ans, fils de celui qui organise depuis des mois l'évasion, Michael Taylor. Peter avait déjà rencontré Ghosn au mois de juillet, les deux hommes se connaissent. Ce coup-ci, il remet au PDG la carte magnétique d'accès à cette chambre 933 avec consigne de s'y rendre le lendemain en début d'après-midi. Carlos Ghosn joue avec le feu, mais il n'a pas hésité à se lancer dans cette opération à haut risque. Il craint trop de retourner pour de longues années peut-être en prison. Le procureur de Tokyo n'est pas décidé à le lâcher. Il a déjà gratifié de 4 mises en examen pour corruption, enrichissement personnel, détournement de fonds au détriment de la firme Nissan. Le 19 novembre 2018, Ghosn avait été arrêté à sa descente d'avion, le jet privé de la société Nissan, sur l'aéroport de Tokyo Haneda. Il s'était aussitôt retrouvé dans les griffes de la justice japonaise. Une corde autour de la taille, comme une laisse, des menottes, des claquettes en plastique aux pieds. Ghosn ne se doutait pas que l'enquête secrète était conduite sur lui depuis plus de 6 mois par le procureur de Tokyo. Le soir même de son arrestation, il se retrouvait ainsi seul dans une cellule au 10e étage de la prison de Kosuge. 6 mètres carrés 46 exactement, une vie carcérale spartiate. L'isolement, pas de visite au début. Le grand patron va passer 129 jours à Kosuge, sans aucun doute le pire moment de sa vie, avant de bénéficier d'un régime moins contraignant et de se retrouver, moyennant une importante caution, en résidence surveillée. Surtout, ne jamais retourner en prison, il ne l'aurait pas supporté. J'avais le choix entre mourir au Japon ou m'enfuir, déclara-t-il une fois réfugié au Liban. Bonsoir Yann Rousseau.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être en ligne depuis Tokyo ce soir dans l'heure du crime. Je salue votre effort parce qu'il est chez vous, je crois, 4 heures du matin, si je ne m'abuse. Donc, vous n'avez pas beaucoup dormi. Vous êtes journaliste, correspondant pour le journal Les Échos au Japon et vous êtes surtout l'auteur, co-auteur, pardon, du livre avec Régis Arnaud, Le Fugitif, chez Stock, qui raconte évidemment toute cette évasion et puis tous les problèmes judiciaires qu'a rencontré Carlos Ghosn. Vous avez rencontré d'ailleurs Carlos Ghosn avant qu'il ne s'échappe du Japon. Quelques heures juste avant l'évasion qu'on va raconter, dans quel état d'esprit est-il l'ancien patron de Renault-Nissan ?
Carlos Ghosn, il est très en souffrance parce qu'il vient juste d'apprendre, quatre jours plus tôt, le jour de Noël, que le procureur lui interdit toujours de voir son épouse Carole, et c'est la plus grande souffrance. Il dit qu'il était prêt à se battre et aller jusqu'au procès, mais là, c'était trop. C'est-à-dire que le procureur avait fait une liste des noms, des gens que Carlos Ghosn n'avait pas le droit de voir dans le cadre de la procédure, des gens qui faisaient partie de Nissan, des anciens amis de Carlos Ghosn ou Carole. C'est des gens qui étaient, selon le procureur, en lien avec des protagonistes de l'affaire qu'ils n'arrivaient pas à interroger. Et donc, il avait interdit à Carlos Ghosn de les voir. Et Carlos Ghosn, le 25 décembre, apprend qu'il ne va pas voir encore plusieurs mois Carole. Ça lui est insupportable.
Donc ça, c'est un véritable choc pour lui. Et c'est peut-être d'ailleurs le déclic qui va le décider à se faire la belle ou se faire la malle, comme on voudra. Est-ce qu'il a... Alors, c'est un plan qui se prépare déjà depuis quelques mois, 5-6 mois, peut-être un peu plus. Est-ce qu'il a hésité, Carlos Ghosn, qui est tout de même à se lancer dans cette aventure?
Alors, Carlos Ghosn, il veut pas vraiment donner les détails de l'affaire. Il en parle assez peu lui-même. Dans son livre, il révèle rien. Ce qu'on sait, c'est qu'il y pense très tôt, dès la seconde libération. C'est-à-dire que vous savez qu'il a été mis en examen, donc 4 fois, vous l'avez dit. Il a fait 2 phases de longue garde à vue. Et on pense qu'à la fin de la seconde garde à vue, il commence à penser à ça. Et Carole, son épouse, va rencontrer très tôt, dès le printemps, Michael Taylor, donc le principal architecte de l'évasion, pour lui dire dans quelles conditions il est détenu et quels sont les scénarios possibles. Donc c'est quelque chose qui est planifié effectivement depuis au moins le mois de mai ou le mois de juin.
On est d'accord, Yann Rousseau, Carlos Ghosn, c'est un homme qui se sent totalement piégé.
Oui, il se sent piégé, il dit qu'il est perdant, il est convaincu qu'il va perdre ces 2 procès, donc il y a 2 grands procès qui sont prévus. L'un où il comparait avec son ancien patron des affaires légales, qui est Greg Kelly, le procès a actuellement lieu, et Nissan, et un où il allait comparaître tout seul, et qui est plus grave, et il est parti sur une condamnation. Vous savez, au Japon, les mises en examen arrivent tardivement, le procureur hésite, mais dès que vous êtes happé, inculpé, à 99%, vous êtes condamné. Donc il sait qu'il va perdre et qu'il est parti pour des années et des années de prison. Donc ça lui est trop dur.
Et encore un petit mot, Yann Rousseau, vous parlez du procureur, c'est un personnage extrêmement important dans la justice japonaise. Il a vraiment le pouvoir, beaucoup plus qu'en France.
Eux, ils vont vous dire que non, c'est-à-dire que par exemple, vous n'avez pas le droit de faire des écoutes sauvages au Japon, vous n'avez pas le droit de traquer les gens, de les suivre. Donc le procureur dit qu'il a assez peu d'éléments pour faire plier ses inculpés, ses suspects, et c'est pour ça qu'il abuse, de notre point de vue, par rapport à la justice française, il abuse de la garde à vue pour essayer de faire craquer moralement.
Faire craquer.
Parce qu'il n'a pas les moyens, d'autres moyens de police ou de justice qu'un procureur américain ou qu'un procureur français aurait, donc c'est pour ça qu'il est Il joue à fond la carte de la pression morale.
Eh bien, on va parler de cette pression morale qui régnait sur Carlos Ghosn avec son avocat, Maître François Zimeray. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes donc l'un des avocats français de Carlos Ghosn, plus particulièrement chargé de la question des droits de l'homme dans cette affaire. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce soir dans l'heure du crime. On en parlait à l'instant, hein, Carlos Ghosn n'a pas supporté cette détention. Il se sentait, a-t-il dit, lui, ce sont ses mots, comme pris en otage.
Oui, ce qui s'est passé au Japon, c'est vraiment l'illustration de ce que les organisations de défense des droits de l'homme ont dénoncé comme étant la justice de l'otage, c'est-à-dire une justice qui prend en otage la personne pour la forcer à faire des aveux, pour la faire craquer. Non pas pour manifester la vérité, peser le pour, le contre, écouter les uns les autres, bref, cette hésitation et ce dialogue judiciaire qui conduit normalement ce chemin qui doit conduire à la vérité, c'est pas comme ça que ça fonctionne au Japon. Au Japon, on suspecte quelqu'un, on construit un dossier dans son dos, on l'incarcère dans des conditions propres à le faire craquer. Et c'est vraiment essayer de faire craquer la personne pour l'obliger à faire ce qu'ils appellent des confessions forcées.
Alors justement, Maître Zimri, il n'y a pas de bracelet électronique pour Carlos Ghosn. Je crois que ça n'existe pas d'ailleurs au Japon. Il y a donc cette résidence surveillée, mais là aussi pour lui, c'est une prison qui finalement il ne supporte pas.
Oui, c'est vrai que cette rigueur qui s'exerce contre lui, elle s'est exercée aussi dans son assignation à résidence. C'est-à-dire que non seulement il y a eu ces 140 jours de détention, mais ensuite une privation de liberté avec des conditions tout à fait inacceptables, comme l'interdiction absolue de rencontrer sa femme, de lui parler au téléphone, et sans limite de temps et sans raison. Et pour lui, c'était vraiment une torture.
Vous dites que c'était une torture. Yann Rousseau, on écoute l'avocat, un des avocats de Carlos Ghosn. Est-ce que vous pouvez nous décrire cette prison tout de même de Kosuge où il est détenu, Carlos Ghosn?
Eh bien, Carlos Ghosn arrive directement le soir depuis son jet privé. Il était à Beyrouth, il atterrit. Il est interpellé en fait dans l'aéroport, pas dans l'avion comme ça a été mis en scène plus tard pour les télés. Il part dans cette prison qui est un centre de détention. Donc vous êtes au nord de Tokyo, c'est un univers de béton et d'acier, toute petite cellule. Vous êtes qu'un seul numéro quand vous êtes dedans, c'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de parler. Vous faites un espèce de vœu de silence. Vous êtes assis dans votre cellule, sauf deux fois 15 minutes dans la journée. Vous n'avez pas le droit de vous lever. Vous avez 15 minutes de gym le matin avec une espèce de musique dans le haut-parleur, 15 minutes le soir. Et le reste du temps, vous devez être assis sur les tatamis ou derrière une petite table. Et on vous interpelle sous votre numéro. Le gardien vient devant et crie Bango tous les matins pour faire l'appel. Bango, c'est numéro en japonais.
Alors, c'est presque bingo, mais c'est pas tout à fait pareil.
Bingo. On n'a pas gagné. Et il a donc les gardiens vous servent trois repas. Vous parlez avec personne. À aucun moment. Vous avez le droit d'aller une fois dans la journée sur le toit 15 minutes dans une autre cage où vous voyez un petit bout de ciel. Et donc le quotidien, il n'y a pas de télé, c'est pas comme en France. C'est le silence, vous avez le droit au livre et éventuellement de regarder votre dossier judiciaire, de l'emmener avec vous dans la cellule pour regarder. Et ensuite Carlos Ghosn, mais bien son quotidien, c'était de voir ses avocats et de voir le procureur qui l'interrogeait parfois jusqu'à 8 heures par jour à l'étage. Et alors la prison est dure parce que c'est l'endroit où il y a les condamnés à mort, puisque la Cour suprême n'est pas loin. Vous savez, il y a encore la peine de mort au Japon. Et donc, les condamnés à mort qui essayent de se sauver, qui veulent un entretien final avant la pendaison, vont voir gens de la Cour suprême. Et donc, ils sont là avant d'être exécutés au premier étage.
C'est pour le moins sinistre. La prison de Kosuge, donc, puis effectivement cette résidence surveillée de laquelle Carlos Ghosn va s'évader pour un incroyable périple qui va durer presque 24 heures. Destination le Liban, Beyrouth, la liberté. Il est 14h30 lorsque Carlos Ghosn quitte son appartement dans l'arrondissement de Minato. Le temps est frais ce dimanche. L'ex-PDG est vêtu d'un long manteau noir. Il porte un bonnet et un masque chirurgical. Pas de Covid à cette époque, mais cet accessoire est depuis longtemps une chose courante au Japon. Sa sortie n'attire pas l'attention. Elle est filmée par les caméras de vidéosurveillance du procureur qui tournent en permanence, mais aucune retransmission en direct. Ces images ne seront collectés que le lendemain. Pas non plus de surveillance spéciale devant l'immeuble. Les avocats de Ghosn ont obtenu que les détectives privés qui campaient devant la résidence, des hommes payés par Nissan, ne soient plus autorisés à épier leurs clients. La voie est libre pour Ghosn qui marche tranquillement, sans aucun bagage, pendant environ 800 mètres. Direction, comme prévu, la chambre 933 de l'hôtel Grand Hyatt, louée au nom de Peter Taylor. Personne dans la chambre, Carlos Ghosn y trouve de nouveaux habits et se change. Une heure plus tard, deux hommes qu'il ne connaît pas le rejoignent. L'Américain Michael Taylor, le père de Peter, et son plus fidèle adjoint, le Libanais George Antoine Zayek. Peu après 16h, Michael Taylor, George Antoine Zayek et Carlos Ghosn sortent de l'hôtel. Deux heures auparavant, la fille du PDG, Maya, a remis deux valises à Peter Taylor des affaires de son père. Celui-ci a pris un vol pour la Chine. Maya s'est envolée, elle, pour Beyrouth. Le trio embarque dans un taxi direction la gare de Shinagawa. Ils embarquent à bord d'un Shinkansen, le TGV japonais, à destination de la ville d'Osaka, au sud du pays. Voyage sans encombre pour les trois hommes. Personne n'a reconnu sous son masque Carlos Ghosn, visage qui a pourtant fait la une des journaux japonais depuis son arrestation. En début de soirée, le trio est à Osaka, pénètre dans un hôtel proche de l'aéroport. celui de Kansai. Il est 20h14. Tout le monde se retrouve dans la chambre 4609 du Stargate Hotel. Il y a dans la pièce deux mâles noirs, une très grande, l'autre plus petite. Taylor et Zayek se sont présentés comme des musiciens qui allaient jouer dans un concert. La grosse mâle est débarrassée de son contenu, placée dans la plus petite. Carlos Ghosn se glisse dans ce coffre capitonné, les jambes repliées. On contrôle pour savoir s'il respire bien. À 21h47, la vidéosurveillance de l'hôtel filme la sortie des mâles. Deux hommes sur les images, mais pas de Carlos Ghosn. Quelques minutes plus tard, Taylor et Zayek sont dans le hall VIP de l'aéroport de Kansai. À cette heure avancée de la soirée, l'endroit est désert. Le trafic des avions d'affaires réduit à son strict minimum. Les repérages dans les mois précédents ont permis d'établir que les contrôles des voyages d'affaires sont ici assez souples pour tous ceux qui quittent le Japon. Des mâles aussi imposantes ne passent pas dans les scanners. Elles ne vont pas être contrôlées, pas plus d'ailleurs que les sacs à dos des deux hommes. Peu avant 22h30, la mâle enfermant l'ex-PDG est embarquée à bord d'un jet, un Bombardier Global Express immatriculé TCTSR. La mâle a été spécialement fabriquée pour pouvoir entrer sans encombre dans l'avion. Elle ne s'ouvrira que dans une heure ou deux. Alors voilà, là il est 23h10, Carlos Ghosn vient donc de décoller, il quitte le Japon. Alors comme ça, ça évidemment ça a l'air très simple, on verra d'ailleurs dans le chapitre suivant toute la préparation qui a entouré cette évasion. Yann Rousseau, vous êtes en direct de Tokyo ce soir, co-auteur du livre avec Régis Arnaud, Le Fugitif aux éditions Stock, vous connaissez parfaitement cette affaire. Alors il y a quelque chose moi qui me trouble et je vous pose tout de suite la question. Ghosn, c'est tout de même l'homme peut-être le plus surveillé du Japon à ce moment-là. Personne ne le remarque quand il sort de son appartement et quand il quitte comme ça Tokyo, il prend un train comme n'importe quel Japonais.
Alors Carlos Ghosn, il était en liberté sous caution. Hein. Vous l'avez dit, il n'avait pas de bracelet électronique, il n'avait pas de tracker. Il avait le droit de faire ce qu'il voulait dans Tokyo, d'aller voir des gens, d'aller au restaurant, d'aller à la gym, d'aller au cinéma. Il avait aussi le droit de sortir de la ville au moins jusqu'à 48 heures sans demander l'autorisation préalable du juge. Mmh. Donc pendant cette période où il était dans l'attente de son procès, qui planifiait cette évasion, il était allé à Kyoto plusieurs fois avec ses sœurs ou avec ses filles qui venaient le voir régulièrement, et il prenait le train comme un citoyen normal. Il n'avait pas quelqu'un qui le suivait permanence ou pas de bracelet électronique. Donc il pouvait aller assez librement. Donc c'était pas choquant de voir Carlos Ghosn au supermarché ou de voir Carlos Ghosn à manger une pizza à côté de vous.
Donc là, c'est évidemment, les gens qui ont organisé cette évasion, ils connaissent cette espèce de créneau horaire qui peut leur être favorable pour évidemment emmener avec eux Carlos Ghosn. Vous avez parlé de la famille de Carlos Ghosn, et là c'est intéressant parce que on sait que une des filles de Carlos Ghosn, Maya, est sur place à ce moment-là. On peut dire que la famille a joué un rôle très clair dans cette histoire.
Si vous demandez à Carlos Ghosn, il va vous dire absolument pas.
Ou il dira rien.
Il dira rien. Donc il dit qu'il a fait ça tout seul. De fait, sa famille est extrêmement, a participé et suivi l'évasion de très près. C'est Carole qui a travaillé très tôt avec Michael Taylor pour le briefer sur les conditions de liberté sous caution de Carlos Ghosn, savoir ce qu'il pouvait faire ou ne pouvait pas faire. Ensuite, ses filles venaient régulièrement. C'est-à-dire qu'il avait le moral quand même assez bas à cette époque. Et donc ses sœurs et ses filles venaient faire des espèces de tours de garde pour être sûr qu'il aille bien. Elles venaient passer une semaine chacune, et ce jour-là, cette dernière semaine-là, c'est Maya qui est là.
C'est Maya.
Ses sœurs étaient là 2-3 jours avant, et le fils aussi a participé, même s'il n'est jamais venu au Japon. On sait, on va en parler après, que dans les paiements qui ont été effectués vers Michael Taylor et Peter Taylor, il y a eu de l'argent qui a transité
Le fils apparaît à ce moment-là, donc c'est un peu tout de même une histoire familiale, même si Ghosn ne dit rien là-dessus. Encore un petit mot sur ce chapitre, Yann Rousseau. L'aéroport de Kansai, ça a été choisi pourquoi ? C'est une passoire ?
Alors, il fallait un aéroport avec un lobby, un hall des jets VIP isolés, si vous voulez, des autres avions longs courriers commerciaux classiques. Et ils ont très vite choisi cet aéroport-là. sachant qu'il y avait assez peu de vols. Vous partez, vous êtes sur 2-3 avions jour en cette fin d'année à Osaka. Ils arrivent assez tard. Ils viennent de dire, ils mettent en scène le fait qu'ils sont un peu en retard pour un peu presser les douaniers pour que ça aille très vite. Donc ils avaient très vite vu que ça pouvait se faire assez facilement là-bas à Osaka.
Carlos Ghosn va réussir son évasion et pouvoir se poser sans encombre à Beyrouth, une ville où l'attend toute sa famille et ses amis. Opération menée de main de maître, fruit de très longs mois de préparation. Après avoir décollé à 23h10 de l'aéroport de Kansai, le jet privé a pris la direction de la Turquie. Le plan de vol comprend le survol de la Chine et de l'URSS, mais évite soigneusement tout pays qui a un traité d'extradition avec le Japon, la Corée du Sud par exemple. Les deux passagers de l'avion privé, Michael Taylor et Georges-Antoine Zayek, ont fait savoir à l'équipage qu'ils ne souhaitaient pas être dérangés pendant le vol. L'espace passager a donc été privatisé, une hôtesse apporte deux plateau repas puis referme la porte derrière elle. C'est le moment où Carlos Ghosn peut sortir de sa malle et dormir un peu sous la surveillance de Michael Taylor. L'avion se pose à 5h12 du matin, lundi 30 décembre, sur la piste de l'aéroport Atatürk d'Istanbul. Ici aussi, les contrôles sont moins stricts, le trafic moins intense depuis l'ouverture récente d'un autre aéroport. Pluie battante, Carlos Ghosn descend en catimini de la passerelle, s'engouffre dans une voiture, 40 mètres à peine, jusqu'à un jet prêt à décoller. Taylor et Zayek, eux, filent comme si de rien n'était. Vers les contrôles de la douane, l'ex-PDG va atterrir dans moins de 2 heures à Beyrouth avec un passeport français et une carte d'identité libanaise. Entre 4 et 6 mois de préparation ont été nécessaires pour monter cette extravagante opération d'évasion. Michael Taylor, chargé d'en assurer les moindres détails, a tout d'abord été contacté par un homme d'affaires libanais, un certain Ali, ami de la famille Ghosn. L'Américain est très connu dans le milieu de la sécurité. Il a notamment dirigé l'American International Security Corporation, une société spécialisée dans les missions à haut risque. Taylor se laisse convaincre. Il est alors mis en contact avec Carol, l'épouse de l'ex-PDG, interdite de visite par le procureur japonais, mais détentrice de précieuses informations sur les conditions de vie de son mari, le dispositif de surveillance, ses rendez-vous, ses horaires, son planning pour les mois à venir. Taylor et Zayek, ex-militaires libanais, vont effectuer de nombreux repérages, des voyages dans la région des Amirats, en Turquie. Ils envisagent un moment une évasion par bateau, les eaux internationales, puis la Thaïlande où le client pourrait embarquer dans un jet. Mais c'est finalement la voie aérienne qui est choisie. Par souci de discrétion, c'est le fils de Michael Taylor qui va se rendre à 4 reprises au Japon. Il y rencontre Carlos Ghosn une première fois dans un restaurant, puis assurera l'intendance, les réservations d'hôtels dans la capitale japonaise. Personne ne doit voir Carlos Ghosn lors de son escapade. Michael Taylor a l'idée de l'enfermer dans une grande boîte pouvant accueillir l'équivalent du poids de l'ex-PDG, 74 kilos en matériel audio. Une menuiserie de Beyrouth est chargée de dessiner cette malle devant abriter du matériel sensible, doté de coins renforcés par du métal et pourvu de petites grilles d'aération. C'est encore Taylor qui fait passer peu de temps avant l'évasion un téléphone portable à Carlos Ghosn pour qu'il suive à la lettre ses dernières directives. Yann Rousseau en direct ce soir de Tokyo, et vous avez longuement enquêté sur cette affaire Ghosn. Vous avez même publié un livre avec Régis Arnaud, Le fugitif chez Stock. Alors tout de suite, Yann Rousseau, qui sont ces deux hommes, ces espèces de deux chevilles ouvrières de cette opération évasion, Michael Taylor et puis le Libanais Georges-Antoine Zayek?
Alors Michael Taylor, c'est un Américain qui a maintenant 60 ans, qui est fils de militaire. Il est rentré lui-même dans l'armée américaine à la fin des années 70. Il était dans les forces spéciales, vous savez, les bérets verts, ce qu'on appelle les bérets verts. Et il a passé 5 ans dans cette division. Et c'est comme ça qu'il a découvert le Liban, parce qu'il y arrive en 82 après la guerre avec l'invasion israélienne et l'assassinat de Pierre Gemayel. Et il s'attache au Liban et à la communauté maronite. Et quand il va quitter l'armée à la fin des années 80, il retournera dans la zone Liban, Iran, Irak, tout le Proche-Orient, Moyen-Orient. Et il va, comme vous venez de le dire, il va monter une une société de sécurité privée qui va faire des missions un petit peu illégales, hein, borderline, barbonzarde. Ça va être de la formation de commandos, de la formation de troupes, des exfiltrations dangereuses. Et il va faire appel pour ça à Georges-Antoine Zayek, qui lui était un spécialiste des pierres précieuses à l'origine, mais qui en fait a été absorbé par la guerre civile au Liban et qui a participé avec son frère, qui avait un rôle très fort, très important aussi dans la garde des Maronites. Et c'est comme ça que les deux hommes se sont retrouvés sur plein de coups au fil des années 90 et des années 2000.
Alors, ils ne connaissent pas Carlos Ghosn, tout au moins, je pense, Michael Taylor, je ne sais pas pour Zayek, peut-être le connaît-il. Le fait est, c'est qu'il y a une très longue préparation pour cette affaire. Hein. On ne fait pas ça comme ça au débotté. Ils vont arpenter toute cette région, repérer les aéroports, etc., les ports, les hôtels.
Alors, ils vont faire ça de loin et avec Peter Taylor qui effectivement vient sur place plusieurs fois. On le sait et c'est assez incroyable parce que c'est dans la procédure. C'est-à-dire que Carlos Ghosn, il est obligé de donner le nom des gens qu'il croise,
qu'il rencontre,
des jeunes ou avec qui il parle. Oui. Et cette liste des gens, elle est donnée une fois par mois au juge qu'il a accepté sa libération sous caution. Et donc, on voit sur les fichiers qu'il a remis le nom de Peter Taylor. Mais à l'époque, ça n'éveille aucun soupçon au Japon. On ne sait pas qui c'est. Peter Taylor dans le système judiciaire. Et donc ça va commencer très tôt puisqu'effectivement début juillet les rendez-vous viennent avec Peter Taylor. L'idée d'un scénario par l'Asie du Sud-Est où le bateau, je crois, est abandonné assez vite.
Très vite,
ils se disent, faut que ça se passe en avion, c'est le plus simple. Et on va profiter du fait qu'ils puissent se promener dans le Japon sans être trop surveillés. Et on va jouer sur cette carte-là.
Et je crois, alors, il y a tout un dispositif qui se met en place. Il y a combien de personnes au final qui vont être impliquées? Bon, j'ai lu une douzaine, une quinzaine.
Alors, c'est très dur à dire.
Bien sûr.
Eux disent qu'ils ont travaillé, Michael Taylor essaie de disculper son fils parce qu'il est très embêté que son fils soit aujourd'hui en prison et risque d'arriver dans les jours qui viennent au Japon, soit extradé. Donc vous avez les deux Taylor, Michael et Peter, vous avez Georges-Antoine Zayek. Pour l'instant, il n'y a pas de collaboration japonaise qui ont été identifiées et c'est une des grandes questions que les juges japonais veulent poser aux Taylor s'ils arrivent dans une prison japonaise dans les prochains jours. Est-ce que vous aviez des complices locaux? Parce que
bien
pour
sûr.
L'instant,
ouais.
Il n'y en a pas dans la procédure. Et ensuite, vous avez les gens qui ont été impliqués dans le vol de l'avion, donc deux pilotes, les hôtesses de l'air, les gens qui ont affrété l'avion. Et ils sont, on va savoir cette semaine, s'ils vont être condamnés à des peines de prison, parce qu'ils ont été, eux, arrêtés à Istanbul pour avoir fait rentrer Carlos Ghosn et l'avoir fait passer sur le tarmac sur un deuxième jet pour qu'il aille de Istanbul à Beyrouth. Donc il y a un procès aussi qui a lieu.
Oui, tout à fait.
Donc on est sur une petite dizaine de personnes.
Oui, et qui va reprendre. Il y a 7 personnes d'ailleurs en Turquie qui sont impliquées dans cette affaire. Maître Zimré, vous êtes, je le rappelle, l'un de nos invités ce soir dans l'heure du crime, avocat de Carlos Ghosn. Alors, Ghosn, votre client, va dire, lorsqu'il va être à Beyrouth, il va dire qu'il n'a jamais eu le choix, que finalement, pour lui, c'était une question de vie ou de mort. Pourquoi dit-il cela, Carlos Ghosn?
Carlos Ghosn, concrètement, il a été emprisonné pendant 140 jours. La lumière allumée de jour comme de nuit. L'interdiction de lire à partir de 9h du soir. L'interdiction de s'asseoir. L'obligation de dormir la face visible pour que le gardien puisse le voir à toute heure du jour et de la nuit. Soumis à des interrogateurs parfois 12 heures par jour dans une langue qu'il ne comprend pas, n'ayant accès qu'à 2 douches par semaine, sans couverture au cœur de l'hiver japonais qui était particulièrement rigoureux, dans une petite cellule avec l'impossibilité parfois de sortir de sa cellule pendant 4 ou 5 jours d'affilée, totalement à l'isolement, ce qui est totalement interdit, sans promenade. Bref, ce sont des conditions extrêmement rigoureuses pour quelqu'un qui n'était pas condamné, qui ne l'est toujours pas, qui est donc présumé innocent et qui doit être regardé malgré tout comme un innocent.
Regardé comme un innocent peut-être, mais à peine a-t-il posé le pied au Liban que, évidemment, l'évasion fait le tour du monde. Le Japon se réveille groggy. Comment son plus célèbre prisonnier a-t-il pu s'enfuir? Tokyo va alors partir en croisade judiciaire, tout faire pour récupérer Carlos Ghosn. C'est un camouflet pour le procureur de Tokyo qui pensait pouvoir renvoyer l'ex-PDG de Renault-Nissan derrière les barreaux pour sans doute plusieurs années. L'un des avocats japonais de Carlos Ghosn, Takashi Takano, estime que cette fuite est impardonnable, mais qu'il la comprend. Le détenu aurait subi trop de vexations, d'interdictions de la part de la justice japonaise, justice qui l'aurait condamné avant même de l'avoir jugé. Carlos Ghosn s'est ainsi retrouvé à Kosuge avec pour seule perspective son procès. Son attitude n'a pas favorisé la souplesse du procureur. L'ancien patron n'a formulé aucun aveu, n'a signé aucune reconnaissance de culpabilité, a nié les faits qui lui sont reprochés. Des détournements de fonds massifs à des fins qui seraient personnelles et qui auraient grevé la comptabilité de Nissan. Il n'y avait aucun signe que j'allais être traité de manière juste au Japon ou d'avoir une meilleure vie pendant 4 à 5 ans. Ils m'ont traité comme un dictateur froid et avide d'argent, déclare Carlos Ghosn à Beyrouth lors d'une conférence de presse suivie par les médias du monde entier. La justice japonaise, abasourdie, saisit aussitôt Interpol afin que soit diffusée une notice rouge demandant l'arrestation où qu'il puisse se trouver dans le monde de Carlos Ghosn. La police libanaise est évidemment concernée par cette alerte, mais ce pays ne donne aucune suite à ce message. Pas plus qu'il n'envisage d'accéder à la demande d'extradition demandée par le Japon. Il n'existe pas d'accord de ce genre entre les deux pays, qui plus est. Le Liban n'extrade pas ses ressortissants, a fortiori quand il s'agit d'une personnalité qui a les faveurs du pouvoir. Le président libanais, Michel Aoun, a reçu en personne l'ancien PDG de Renault-Nissan. L'enquête diligentée à Tokyo pointe vite du doigt certains acteurs qui se trouveraient derrière cette opération d'exfiltration. La police japonaise dispose assez rapidement des noms des Américains Michael et Peter Taylor, ainsi que du Libanais Henri George Zayek, les deux premiers accusés d'avoir enfreint les règles de l'immigration et protégé un criminel en fuite, sont arrêtés aux États-Unis seulement 5 mois après l'opération et placés dans un centre correctionnel avant qu'un juge américain ne se prononce sur leur sort. Le troisième homme, le Libanais Zayek, se trouve lui à Beyrouth où il est comme Carlos Ghosn, hors d'atteinte. Yann Rousseau, en ligne ce soir dans l'heure du crime depuis Tokyo au Japon. Vous avez fait une longue enquête sur cette affaire Carlos Ghosn. Alors il faut tout de même faire un petit point sur ce qu'on lui reproche au Japon. On n'en a pas encore parlé. Il y a des charges très lourdes. Je crois qu'il y a 4 mises en examen, c'est ça ?
Exactement, il y a 4 mises en examen. La première fois qu'il est arrêté, il est accusé d'avoir violé une loi relative à la bourse de Tokyo. En gros, le procureur lui reproche de ne pas avoir déclaré à la bourse une partie des revenus qu'il avait prévu de toucher à son départ de Nissan. C'est-à-dire que la thèse de l'accusation, c'est que Carlos Ghosn avait un salaire assez important et qu'il l'avait divisé en deux partie, une partie qu'il touchait directement et une partie qu'il toucherait à son départ de l'entreprise afin de pas la faire apparaître aux yeux du public, aux yeux des actionnaires et à pas créer de scandale. Ça, c'est les deux premières mises en examen. Les deux autres mises en examen sont un peu plus graves, c'est des abus de confiance aggravés. Là, on l'accuse d'avoir effectivement profité un petit peu des largesses de Nissan, pas forcément d'avoir pris de l'argent sur la troisième mise en examen, mais sur la quatrième mise en examen, oui. Et donc, on lui reproche ça, d'avoir profité de filières de bonus qu'il aurait fait donner à des distributeurs du réseau Nissan au Proche-Orient et d'avoir récupéré une partie de cet argent. Carlos Ghosn dit qu'il est innocent de tous ces faits.
Effectivement, il dit, et il le répète encore aujourd'hui, qu'il est innocent de tous ces faits. L'enquête du procureur va être, on ne peut plus discrète, puisque même le principal intéressé n'est pas a priori alerté qu'il y a des menaces qui pèsent sur lui. C'est toujours comme ça au Japon ?
Oui, alors les procureurs, alors là c'est assez particulier parce que ça commence chez Nissan en interne, c'est-à-dire qu'il va y avoir à partir du printemps 2018 des gens qui vont amener des documents internes disant qu'il y a que Carlos Ghosn se serait livré à des activités illégales, et donc il va y avoir une espèce de pré-enquête à l'intérieur du groupe, notamment menée par une personne qui s'appelle Arinada, qui est devenue le chef du service légal et qui a une dent contre Carlos Carlos Ghosn. Et donc, lui, il fait ressortir tous ses vieux dossiers. Il constitue une première enquête et le procureur va découvrir ça, lui, 2 ou 3 mois plus tard. Il a déjà un dossier qui est un peu constitué et il demande à poursuivre cette enquête. Et il a une grosse partie des affaires légales de Nissan qui va l'abreuver de documents. Donc, si vous voulez, il a cette capacité à faire travailler Nissan pour lui. Donc, il n'a pas besoin d'inculper ou d'arrêter Carlos Ghosn tout de suite. Et un des problèmes, c'est que Carlos Ghosn, à cette époque, il ne vient plus beaucoup au Japon. Il est un petit peu absent de la direction du groupe. Et donc, il ne se rend pas compte que ses anciens alliés sont en train de se retourner contre lui.
Ah oui, c'est ça. Donc, il ne voit pas le danger arriver. Ce que vous nous racontez, c'est tout à fait incroyable. Ça veut dire que c'est finalement l'enquête, c'est Nissan qui l'a fait. C'est pas tellement la police financière japonaise.
Alors, Nissan va collecter des documents, des emails, des contrats, les contrats d'habitation, des échanges, des sociétés qui ont été montées offshore. Et ils vont amener ça au procureur qui va les décortiquer avec ses équipes du parquet financier et qui va avoir dans ces documents ce qui peut devenir des mises en accusation.
Tout à fait. Alors, Yann Rousseau, vous êtes installé au Japon, c'est un pays que vous connaissez parfaitement. Vous étiez sur place quand la nouvelle de l'évasion de Carlos Ghosn est tombée. Racontez-nous, c'est un cataclysme à ce moment-là, et c'est un cataclysme et un camouflé pour la justice japonaise.
Alors tout le monde est sous le choc parce que c'était jamais arrivé depuis des décennies. Donc il y a une grande surprise. Effectivement, c'est la une des médias ce jour-là. Tout le monde en parle. Ensuite, c'est un camouflet. C'était un peu compliqué. C'est-à-dire que le procureur ne voulait pas que Carlos Ghosn soit libéré sous caution. Et c'est un juge, un petit peu un juge d'application des peines, si vous voulez, un petit peu comme en France, sauf qu'il n'était pas condamné, mais qui l'a laissé sortir contre l'avis du procureur. Et donc quand Carlos Ghosn s'échappe, le juge est très mal, ce juge qui a validé sa libération sous caution est très mal, et par contre le procureur est quelque part triomphant parce qu'il dit voilà, je vous l'avais dit, on ne pouvait pas lui faire confiance.
La démonstration, c'est ça.
Et donc il va se servir de se camoufler, si vous voulez, pour maintenant durcir aujourd'hui. Si vous êtes étranger aujourd'hui et que vous êtes mis en examen au Japon, vous avez très très peu de chances d'être libéré sous caution du fait de ce précédent Ghosn.
C'est-à-dire que ça, c'est les leçons finalement de l'évasion de Ghosn. Il va y en avoir d'autres aussi. Il va avoir des répercussions, notamment sur les aéroports, etc. La surveillance, on va parler beaucoup de ça au Japon, non ?
On va en parler. Ensuite, le fait qu'il n'y ait pas de contrôle au départ des jets VIP, c'est pas quelque chose d'exceptionnel. Vous savez, les pays font ça. Ouais. Surtout si vous partez, vous allez pas. Enfin, personne va faire partir de la drogue du Japon. Si vous avez une bombe à bord, vous allez vous détruire tout seul. Donc il y a plein de pays qui laissent les jets des VIP partir très rapidement sans des contrôles très approfondis des bagages.
Est-ce qu'il y a un sentiment, encore une question, Yann Rousseau, journaliste et correspondant pour le journal Les Échos au Japon, est-ce qu'il y a un sentiment de honte chez les Japonais ? Je sais que c'est une civilisation qui est très sensible à ça. Est-ce qu'ils ont été humiliés finalement par Ghosn ?
Non, ils l'ont pas vécu comme ça. Ça n'a pas été du tout dans l'opinion publique. Ça n'a pas été vécu comme ça. Même il y a eu ce côté. S'il pouvait y avoir des hésitations dans l'opinion publique japonaise sur sa culpabilité ou non, le fait qu'il s'enfuit, pour des Japonais, il signe son crime, si vous voulez. C'est-à-dire que au Japon, vous avouez souvent, vous reconnaissez vos fautes. Quand il s'enfuit et qu'il refuse de venir répondre de ces 2 procès, pour l'opinion publique japonaise, cela veut dire qu'il était donc coupable. Donc ils l'ont plutôt vécu comme ça que comme une humiliation du système carcéral, enfin du système judiciaire ou policier.
À défaut de mettre la main sur Carlos Ghosn, la justice japonaise va tout faire pour identifier et faire arrêter les hommes ayant participé à cette opération. Une équipe qui a ridiculisé un pays tout entier. Et le procureur qui voulait faire condamner l'ex-PDG. Le samedi 13 février 2021, après 9 mois de procédure et de débats acharnés, la Cour suprême des États-Unis a levé le dernier obstacle à l'extradition des Taylor, père et fils, Michael et Peter, soupçonnés d'avoir joué un rôle central dans l'évasion. Une juge fédérale, Indira Talwani, avait estimé que la requête japonaise était justifiée. Les avocats des 2 Américains avaient tenté de démontrer que si les Taylor étaient emprisonnés au Japon, ils risquaient d'être soumis à des tortures, à des humiliations. Argument non retenu. Les Taylor ont tout d'abord démenti avoir été payés pour leur travail. Ils auraient toutefois reçu la somme de 1,3 million de dollars pour leurs bons et loyaux services. Les deux hommes avaient été placés dans un centre correctionnel pour éviter tout risque de fuite. Peter Taylor avait effectivement été arrêté à Boston alors qu'il essayait de s'envoler pour le Liban. Les Taylor et leur dernier secret ne vont donc pas échapper à l'extradition imminente et à un séjour dans la prison de Kosugé, celle où se trouvaient leurs clients. Ils risquent jusqu'à 4 ans de détention, peut-être davantage. En Turquie, 7 personnes impliquées dans le transfert de Carlos Ghosn à l'aéroport Atatürk ont également comparu en correctionnel à Istanbul, procès qui doit reprendre après-demain, mercredi 24 février. Depuis sa conférence de presse et quelques sorties médiatiques, Carlos Ghosn a choisi de rester discret. Il lui est impossible de sortir du Liban sous peine d'être aussitôt arrêté. Une enquête est également ouverte en France. Il était question que 5 magistrats aillent l'entendre à Beyrouth sur des faits de corruption, abus de biens sociaux et trafic d'influence, ainsi que sur les dépenses de Renault-Nissan. L'ex-PDG avait notamment été épinglé pour 2 soirées fastueuses organisées au château de Versailles 2014-2016, à une époque où il était l'un des patrons les plus puissants et les plus craints de la planète. Yann Rousseau, on le voit, vous êtes en ligne avec nous ce soir dans l'heure du crime depuis le Japon, on le voit, les enquêtes continuent. Vous êtes informé de l'enquête française qui prospère ou pas cette enquête, ce volet ?
Elle est retardée du fait de la crise du Covid, c'est-à-dire que les magistrats français, avant de décider de mettre en examen ou non Carlos Ghosn sur le volet Renault français de l'affaire, veulent absolument l'entendre et lui demander. Lui-même dit qu'il n'a pas pu aller en France parce qu'il aurait risqué effectivement
d'être
interpellé sur le vol, sur le parcours. Il pourrait théoriquement aller en France, mais d'être interpellé sur le chemin. Il dit qu'il attend les procureurs et qu'il répondra à toutes leurs questions pour dissiper tout doute. Mais les juges français, s'ils y vont, c'est qu'ils ont des biscuits et qu'ils veulent l'interroger, notamment sur ce qu'on appelle la filière d'Oman, qui est aussi ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire ces bonus qui auraient été donnés à des concessionnaires de Renault-Nissan au Moyen-Orient et qui se seraient retrouvés ensuite sur des comptes de la famille Ghosn.
Une enquête donc entre parenthèses, ce volet français. Alors on revient au Japon avec vous Yann Rousseau, pays dans lequel vous vivez, vous êtes là-bas le correspondant pour le journal Les Échos. On attend maintenant l'arrivée imminente, je le disais, des Taylor père et fils.
Oui, il pourrait arriver dès la fin de cette semaine, en fait. C'est-à-dire que ils ont fait tous les recours légaux possibles et inimaginables. Le dernier, c'était devant la Cour suprême, ça n'a pas marché. Leurs avocats essayent encore de mobiliser, vous savez, la classe politique japonaise, en disant vous allez quand même pas envoyer un héros, un ancien militaire de la mère patrie se faire punir dans les geôles japonaises. Mmh. Ils espéraient beaucoup, en fait, de l'ancienne administration Trump, mais ça n'a pas fonctionné. Il n'y a pas eu de mobilisation des républicains pour les Taylor, et donc il est possible qu'ils arrivent. Ce que m'ont dit cette semaine leurs équipes de défense, c'est qu'en fait Peter Taylor a attrapé le coronavirus dans sa prison et qu'il ne pourrait pas être déplacé tant qu'il serait malade, et que le père et le fils recevraient leur deuxième dose de vaccin anti-Covid, puisqu'ils ont eu la première dose il y a 3 semaines. Donc ça dépend de ça, en fait.
Oui, c'est ça. Donc là encore, la crise sanitaire perturbe vraiment le cours de la justice. Je le disais, 1,3 million de dollars, c'est un chiffre qui est sorti d'ailleurs dans la procédure américaine, dans l'enquête ouverte là-bas sur les Taylor. On avait parlé même de 30 millions au cours de l'enquête. Il y a beaucoup de chiffres qui ont circulé. 1,3 million de dollars de rétribution, ça vous paraît vraisemblable, Yann Rousseau ?
Ouais, alors ça, c'est l'argent qu'on a effectivement identifié. Michael Taylor, lui, il dit qu'il l'a fait pour la beauté du sport. Il dit partout qu'il n'a pas voulu se faire payer, que c'était une affaire qui l'avait scandalisé, que Carlos Ghosn... qui est libanais, et il avait été touché par son histoire et qu'il a donc demandé seulement à être payé pour les frais, et notamment la location du jet, des avions et le paiement des complices. Donc c'est tout, il dit qu'il n'a pas été payé. Si vous demandez à des spécialistes de ce genre d'opérations délicates, ils ont plutôt sur des chiffres de 5 millions de dollars pour monter une telle opération.
Oui, c'est plus vraisemblable.
Les procureurs n'ont trouvé qu'1,3 million.
Oui, c'est plus vraisemblable, mais effectivement, c'est la trace du versement que l'on retrouve. On va rejoindre tout de suite Maître François Zimeret, qui est l'un de nos invités dans l'heure du crime ce soir, avocat de Carlos Ghosn. On le disait, donc, il y a cette extradition qui est demandée par le Japon auprès des autorités libanaises. Maître Zimeret, est-ce qu'il est possible, peut-être, que le Japon récupère un jour Carlos Ghosn, finalement, pour le juger ?
Au Japon, la procédure pénale ne peut pas se continuer en l'absence de la personne poursuivie. Donc, la procédure, pour le moment, est suspendue au Japon. Le procès ne peut pas avoir lieu. Mais le Japon souhaiterait effectivement une extradition, une arrestation, à lancer un mandat d'arrêt international. Mais il y a quand même très peu de chances qu'il soit exécuté. D'abord parce que il a la nationalité libanaise, il est au Liban, il a la nationalité française aussi, brésilienne, et ces pays n'extradent pas leurs nationaux. Donc je pense que au Japon, je vois mal comment la procédure peut se poursuivre. Peut-être pourra-t-elle se poursuivre ailleurs. Encore une fois, Carlos Ghosn n'est pas au-dessus des lois et il a toujours dit qu'il rendrait les comptes qu'on lui demande de rendre, pour autant qu'il soit confronté à des juges et à une justice équitable, simplement qui respecte son humanité, qui ne le prend pas en traite comme cela fut le cas.
Alors on comprend bien qu'effectivement il sera difficile d'aller chercher Carlos Ghosn au Liban où il vit et dont il a un passeport. Justement, Yann Rousseau, il y a une petite question qui me turlupine là depuis le début. Carlos Ghosn, il est arrivé au Liban avec un passeport français et une carte d'identité libanaise. Je croyais qu'il n'avait plus de papier d'identité.
En fait, il avait une petite boîte comme un ziploc, si vous voulez, pour faire réfrigérer vos affaires, qu'il gardait avec lui. En théorie, il n'avait pas le droit de l'ouvrir, mais c'était pour se déplacer à l'intérieur du Japon, pour ne pas être dans l'illégalité et ne pas avoir de pièces d'identité avec lui. Donc, il avait le droit de transporter cet ultime passeport avec lui pour des raisons légales internes au Japon.
Est-ce que, alors on arrive au bout de l'émission, mais j'aimerais quand même vous poser encore une ou deux questions. Quel secret reste-t-il à lever dans cette affaire d'évasion? Est-ce qu'il reste encore des mystères, des interrogations?
On sait beaucoup de choses. Une des grandes questions ici, c'est est-ce qu'il y a des complicités japonaises? Comment est-ce que des étrangers qui connaissaient absolument pas le pays ont pu monter cette affaire? Donc ça va être une des grandes questions. Si les Taylor arrivent à Tokyo, ça va être une des grandes questions de l'instruction.
Merci beaucoup Yann Rousseau en direct de Tokyo au Japon et maître François Imré d'avoir été les invités de l'heure du crime avec ce soir l'évasion du siècle façon Arsène Lupin de Carlos Ghosn à l'abri au Liban, même si l'histoire n'est sans doute pas encore tout à fait terminée. À suivre donc, merci à Justine Vigneault, Marie Bossard d'avoir préparé cette émission, Marc Bisset à la réalisation et puis un immense merci, encore plus immense que cela, à vous toutes et tous d'avoir partagé ce soir cette heure du crime.